Chapitre 5. Madame Bombec. Prudence acheva de tout ranger dans la malle que les Polonais chargèrent sur leurs épaules et tous descendirent l'escalier noir et tortueux qui les mena jusque dans la rue. La malle fut posée à terre. Tsozr Gebrolowski courut chercher un fiacre qu'il ne tarda pas à amener à la porte. On plaça la malle sur l'impériale. Prudence, Innocent, Simplicie et les Polonais s'entassèrent dans le fiacre. « 15 rue Godot !» cria Boginski. Et le fiacre partit. À 10 heures sonnantes, il s'arrêta à l'adresse indiquée. Tous descendirent, on prit la malle. « Madame Bombec !» dit Boginski au portier après avoir payé le fiacre avec l'argent de Prudence. « Au 5e, au bout du corridor, première porte à gauche !» répondit le portier sans regarder les entrants. Tous montèrent. Au 3e étage, ils commencèrent à ralentir le pas, à souffler, à s'arrêter. « Comme ma tente demeure haut !» dit Simplicie. « L'escalier est joli et clair !» dit Innocent. « Diable de Paris !» marmotta Prudence. « Tout y est incommode et pas du tout comme chez nous. Cette idée de bâtir des maisons qui n'en finissent pas, étage sur étage, ça n'a pas de bon sens. Ouf ! Dirent les Polonais en déposant lourdement leur charge à la porte de Madame Bombec. Boginski, qui était au fait des usages de Paris, tira le cordon de la sonnette. Une femme assez sale et d'apparence maussade vint ouvrir. « Qui demandez-vous ? Dit-elle d'un ton bref. « C'est vous qui êtes venu hier soir pour parler à Madame ?» « Oui, madame, et nous demandez Bombec !» dit Tsozr Gebrolowski. « Qu'est-ce que c'est que ça, Bombec ?» répondit la bonne en fronçant le sourcil. « Madame Bombec, tante de Monsieur Innocent que voici et de Mademoiselle Simplicie que voilà !» s'empressa de répondre Prudence en faisant force révérence. « Entrez !» reprit la bonne en s'adoucissant. « Et ces messieurs, entrent-ils aussi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?»« Nous, amis de madame et des enfants, nous les défendre, les aider beaucoup !» « Ce sont nos protecteurs, nos sauveurs !» reprit Prudence avec vivacité. « Entrez tous !» continua la bonne, en jetant toutefois sur les Polonais un regard de méfiance. « Sac à papier, sabre de bois, vas-tu me laisser aller, toi l'amour des chiens ?» cria une voix presque masculine. Au même instant, la porte du salon s'ouvrit et Madame Bombec fit son entrée, tenant par les oreilles un superbe épagneul qui sautait sur elle et gênait sa marche. C'était une femme de 70 ans, sèche, vigoureuse, décidée, taille moyenne, cheveux gris, tête nue, petits yeux gris malicieux, nez recourbé, bouche maligne. L'ensemble bizarre et conservant des restes de beauté. « Ah bah, l'amour des chiens, va embrasser tes nouveaux compagnons. Bonjour, Simplette, bonjour, pauvre innocent, bonjour, dame Prude. On vous a annoncé hier soir, je vous attendais. Je n'ai pas été vous prendre à la gare comme le demandait mon frère parce que j'avais de la musique chez moi. Mais j'ai bien pensé que vous vous tireriez d'affaire sans moi. Ah ah ah, quelle mine vous avez ! Allons donc, n'allongez pas vos visages ! Sont-ils rouges ? Sont-ils drôles ? Et vous autres, grands nigauds ? Des Polonais, pas vrai ? Je vous reconnais, mes gaillards. Allons, entrez tous chez la vieille tante. Pas de cérémonie et pas d'air guindé. J'aime qu'on rie chez moi. Celui qui ne rit pas n'a pas une bonne conscience. Par ici, l'amour des chiens, par ici. Fais-leur voir comme tu es bon ami avec l'amour des chats. Tenez, voyez ça, voyez cet amour de chat. Un peu pelé parce qu'il est vieux comme sa maîtresse et qu'il bataille par-ci par-là avec l'amour des chiens. Ah bah, l'amour des chats. Voyons, pas de bataille. Ah bah, l'amour des chiens. Sac à papier. Ah bah, je dis. L'amour des chiens, l'amour des chats n'écoutait pas les paroles conciliantes de leur maîtresse, ils se battaient comme des enragés. L'amour des chiens arrachait à belles dents les poils déjà endommagés de son ami. L'amour des chats griffait à pleines griffes le nez, les oreilles, les yeux de son camarade. Madame Bombec criait, se jetait entre eux, tapait l'un, tapait l'autre, sans pouvoir les séparer.
« Satanée bête ! » s'écria-t-elle.
« Ah, vous en voulez ! On y va, on y va !»
Et, saisissant un fouet, elle distribua des avertissements si frappants que chiens et chats se séparèrent et se réfugièrent dans leur coin, hurlant et miaulant. Madame Bombec remit son fouet en place, s'approcha en riant des enfants consternés, de Prudence pétrifiée et des Polonais ébahis.
« Voilà ma manière, dit-elle, Je fais tout rondement. Allons, entrez au salon. Prude, ma fille, va-t'en dans ta chambre. Range tout, Croque-Mitaine t'aidera. C'est ma bonne que j'appelle Croque-Mitaine, parce qu'elle a toujours l'air de vouloir avaler tout le monde. Allons, ajouta-t-elle en poussant à deux mains les enfants et les Polonais. Je veux qu'on rie, moi. Ha ha ha, ont-ils l'air effarés? Je ne vous mangerai pas, allez.
Moi, pas me laisser avaler, pas passer, dit Sozre Gebrelevski. Gorge étroite, moi large.
Bien dit, mon garçon. Comment vous appelez-vous?
Sozre Gebrelevski, ma bon bec.
Eh? Tsoz... quoi?
Sozre Gebrelevski, ma bon bec.
Diable de nom! Ces Polonais, ça a des noms qu'une langue française ne peut pas prononcer.
Langue française douée, jolie, bonne, comme dame français, dit Boginski.
Tiens, tiens, vous êtes le flatteur de la bande. C'est bien, mon ami, c'est l'ancienne politesse française. Et comment vous appelez-vous?
Boginski, madame Bombec.
À la bonne heure, Boginski. C'est un nom chrétien, au moins.
Tsoz qui?
Je ne vous appellerai pas souvent, vous. Et toi, Simplette, et toi, Innocent, allez-vous rester à tournoyer comme des toupies d'Allemagne? Que veux-tu faire, toi?
Ce que vous voudrez, ma tante, répondit Simplicie timidement.
Ce que vous voudrez, ma tante, l'imita madame Bombec. Sotte, va! Tâche d'avoir une volonté, sans quoi je t'en donnerai avec le fouet de l'amour des chiens et l'amour des chats.
Simplicie frémit et regarda sa tante avec terreur.
Et toi, Innocent, n'as-tu pas une volonté?
Si, ma tante, je veux entrer en pension.
Pourquoi faire, imbécile? Pour crever d'ennui?
Je veux porter un uniforme comme Léonce qui est entré au collège Stanislas.
Si c'est pour porter un uniforme, je te ferai recevoir dans les enfants de troupe, grand nigaud. Tu aurais bien par-ci par-là quelques coups de fouet et tes camarades à tes trousses, mais tu courrais les champs et tu ne pâlirais pas sur ces diables de grec et de latin auxquels ils ne comprennent rien, quoi qu'ils en disent.
Papa veut bien que j'entre en pension, ma tante, et il m'a dit que j'entrerai dans la pension des jeunes savants.
Anne savant, tu veux dire, nigaud.
Innocent n'osa pas répliquer. Madame Bombec lui donna en riant une tape sur les reins et s'assit dans un fauteuil. Elle interrogea les Polonais qui lui racontèrent les aventures du voyage de Prudence et des enfants. Elle rit à se pâmer. Sa gaieté gagna les Polonais et même les enfants.
« Je vois que vous êtes de bons enfants, » dit-elle aux Polonais. « Où demeurez-vous? Que faites-vous? »«
Nous n'avons pas de demeure et pas rien à faire, » dit Boginski.
« De quoi vivez-vous ?»«
Gouvernement donne 1,50 franc par jour. »«
Mais c'est une horreur! Comment peut-on vous faire vivre avec si peu de choses ? » ?»«
Écoutez-moi, mes amis, moi qui n'ai pas comme le gouvernement 10 ou 15 000 Polonais à nourrir, je vous offre une chambrette chez moi. Je ne suis pas riche, mais j'ai bon cœur, moi. Vous m'aiderez à faire marcher mon ménage et vous aiderez Croque-Mitaine. Est-ce entendu? Cela vous convient-il?
Mame Bombec, très bonne, dit Boginski. Mon camarade et moi, très contents, très reconnaissants, nous faire tout pour Mame Bombec et Mame Croque-Mitaine.
C'est bien, suivez-moi tous, je vais vous établir chacun chez vous. Madame Bombec sortit, suivie des enfants, des Polonais, de l'amour des chiens et de l'amour des chats. Ils marchèrent vers la cuisine en traversant la salle à manger, la chambre de Madame Bombec, la chambre destinée à Innocent, à Simplicie et à Prudence, ensuite un bout du corridor, puis la cuisine où Croque-Mitaine fit connaissance avec Prudence.
« Tiens, Croque-Mitaine, je t'amène de bons garçons qui vont t'aider et qui nous feront rire.
Madame veut loger ces messieurs? Et où Madame veut-elle les mettre?
C'est ton affaire, mets-les où tu voudras, couche-les comme tu pourras et fais-les marcher rondement. Ils ont de drôles de noms, va. Celui-ci s'appelle Boginski, et l'autre, Polonais pur sang, Tsozrebrege, je ne sais quoi. Nous l'appellerons Tsoz, pour abréger.
Là, vous voilà installés, les Polonais. Venez, vous autres, et toi aussi, Prude, tu vas défaire la malle des enfants. »
Elle les mena dans leur chambre, donna une tape à l'un, tira l'oreille de l'autre, et les quitta en riant pour étudier sur son violon un morceau de Mozart qu'elle devait écorcher le soir avec 3 ou 4 vieux amis qui grattaient comme elle du violon, de la contrebasse ou qui soufflaient dans des flûtes.
« Innocent, dit Simplicie quand ils furent seuls avec Prudence, ma tante est singulière, elle me fait peur.
Pas à moi, il ne s'agit que de lui répondre et de la faire rire, c'est une bonne femme.
Bonne, tu as donc oublié comme elle a battu son chien et son chat?
Je crois bien, ils se battent quand elle veut nous faire voir comme ils sont bons amis.
Et puis comme elle crie, comme elle rit fort, comme elle jure. Mon Dieu, que je vais être malheureuse.
Pourquoi ne suis-je pas restée avec maman et papa ?
Laisse donc, tu t'habitueras. Je te dis qu'elle est très bonne femme.
Je ne sais pas où mettre nos affaires, dit Prudence. Il n'y a ni commode ni armoire dans la chambre.
Tiens, voilà un grand placard avec 6 tablettes, dit Innocent.
Mets tout cela dedans.
C'est aisé à dire, mets tout cela dedans. Où voulez-vous que j'accroche les robes de mademoiselle et vos habits d'uniforme ?
Laisse-les dans la malle. D'abord pour les miens, j'espère bien les emporter bientôt à la pension.
Et les robes de mademoiselle, elles seront chiffonnées dans la malle.
Bah, il n'y a pas grand malheur, ça ira tout de même.
Tu es bon, toi, s'emporta Simplicie. Je ne veux pas que mes robes soient chiffonnées, je veux qu'on les accroche.
Où mademoiselle veut-elle que je les mette ? Il n'y a ni armoire ni porte-manteau.
Je veux qu'on sorte mes robes.
Non, on ne les sortira pas, dit Innocent.
Je te dis que si, je les sortirai moi-même.
Simplicie voulut tirer ses robes hors de la malle. Innocent se jeta dessus et la repoussa. La lutte continua quelque temps, assez silencieuse, mais petit à petit s'anima. Des paroles on en vint aux tapes, et les enfants se querellaient avec acharnement, malgré les remontrances de la bonne, quand la tante Bombec entra pour connaître la cause des cris et du bruit qui troublait sa musique.
« Diable d'enfant, allez-vous finir ? A-t-on jamais vu des enragés pareils ? Faut-il que je prenne mon fouet pour vous séparer comme l'amour des chiens et l'amour des chats ?»
La menace fit son effet. Innocent lâcha Simplicie, qu'il tenait par ses jupes d'une main pendant qu'il tapait de l'autre, et Simplicie abaissa ses pieds qui battaient le tambour sur les jambes et les reins d'Innocent. La tante les fit approcher, les gratifia chacun d'une paire de claques et retourna à son violon. Prudence resta ébahie de voir ainsi traiter ses jeunes maîtres. Innocent et Simplicie se frottaient les joues en pleurnichant tout bas.
« Tu vois comme elle est méchante, » dit Simplicie à voix basse.
« Elle tape joliment fort, sa main est sèche et dure comme du fer.
J'écrirai à maman que je ne veux pas rester chez elle.
Où iras-tu ? Moi, c'est différent, j'irai à la pension des jeunes savants.
Prudence, prends la lettre que papa a écrite au maître de pension. Nous irons la porter aujourd'hui.
La voici dans mon portefeuille, monsieur Innocent. Mais comment trouverons-nous la rue et la maison ?
Nous dirons à un des Polonais de nous y mener, répondit Innocent.
C'est une bonne idée, ça. Je vais vite ranger vos effets et nous appellerons les Polonais.
Prudence, aidée d'Innocent et de Simplicie, parvint à tout mettre en ordre. Elle mit le linge entre les matelas, elle enveloppa dans une serviette celui d'Innocent, dans une autre les habits et chaussures de collège. Elle arrangea de son mieux ses robes et celles de Simplicie dans les deux compartiments de la malle. Ensuite, elle donna aux enfants de l'eau, du savon, des peignes et des brosses. Ils firent leur toilette et s'apprêtaient à sortir, quand Croque-Mitaine vint les prévenir qu'il était midi et que leur tante les attendait pour déjeuner. Ils n'osèrent pas résister à la sommation, et, laissant Prudence déjeuner de son côté avec Croque-Mitaine, ils allèrent au salon.
Arrivez donc, sapristi ! J'aime qu'on soit exact, moi. Mettons-nous à table, j'ai une faim d'enragé. Mets-toi là, Simplette, à ma droite. Et toi, par ici, Nigo, en face de moi. Où sont les Polonais ? Fais-les venir, Croque-Mitaine, je n'aime pas attendre, tu sais.
2 minutes après, les Polonais, lavés, peignés, nettoyés, entraient, saluaient, remerciaient.
Aurez-vous bientôt fini vos révérences ? Je n'aime pas tout ça. À table et mangeons.
Croque-Mitaine apporta une omelette. Madame Bombec la partagea en 5 parts, réservant un bout pour Prudence et Croque-Mitaine.
Tiens, Croque-Mitaine, emporte ça et mange là-bas avec Prude, qui doit avoir l'estomac creux. J'ai une faim terrible, moi.
Tous mangèrent leur omelette sans souffler mot. Quand ils eurent fini, la tante Bombec versa à boire.
« Peu de vin, beaucoup d'eau, » dit-elle en riant. « C'est mon régime et celui de ma bourse qui est maigre et souvent vide. »«
Ça ne vous va pas, hein, les Polonais. Vous aimeriez beaucoup de vin et peu d'eau, pas vrai ?»«
Je ne dis pas non, Mame Bombec, » dit Sozre Gebrolevski. « Mais faut prendre quoi on donne. »«
Et dire merci encore, monsieur Tsoze. Avec vos 30 sous par jour, vous auriez chez vous de l'eau de Seine et du pain de munitions. »«
Je dis pas non, Mame Bombec. Faut prendre quoi on a. »
« Dites donc, mon cher, ne répétez pas à chaque phrase « Mame Bombec ». Avez-vous peur que je n'oublie mon nom par hasard ?»«
Oh, cela non, Mame Bon... »«
Encore ? Sac à papier ! Vous m'ennuyez, savez-vous ?
Laissez parler Boginski. Je l'aime mieux que vous, avec votre nez rouge et vos grosses moustaches rousses.
Voyons, Boginski, mon garçon, racontez-nous quelque chose.
Volontiers, moi savoir beaucoup. Moi raconter comment un jour j'étais beaucoup fatiguée avec camarades aussi. J'avais resté à cheval 15 jours. J'avais pas ôté bottes. Les russes toujours prêts. Chevaux pas ôté bride et selle. Pieds à moi grattaient beaucoup. Cheval buvait eau fraîche. Moi ôté bottes et voir pieds en sang. Des bêtes 1000 et 10 000 courir partout sur pieds et jambes et manger moi. Moi laver, laver. Bêtes mourir et noyer. Moi content. Puis laver bottes pleines des bêtes. Moi plus content encore. Voilà russe arrive. Nous sauter à cheval, moi nu-pied, galoper, tuer russe, fendre tête, percer poitrine. Russe peur et sauvé. Moi rire, moi tout à fait content, camarade aussi. Après pas content, moi plus de bottes tomber là-bas. Mais moi pas bête, descendre par terre, tirer bottes à russe mort, laver beaucoup, puis mettre, et c'est très bien. Bottes bonnes, pas trop comme miennes, bottes très bonnes, et moi toujours content et galoper à camarade pour Ostrolenka.
« Qu'est-ce que c'est que ça, Olenka ?» demanda Madame Bombeck.
« Ces batailles terribles. Longtemps, 1831. Moi, 15 ans, tuer 25 Russes, puis échapper bien loin et venir en bonne France et avoir 30 sous par jour. C'est bon, ça, pas mourir de faim toujours, c'est beaucoup. Pas mourir de froid, beaucoup aussi. Et trouver bonne Madame Bombeck, c'est excellent, ça. »
« Pauvre garçon, » dit Madame Bombeck, touchée de cette dernière phrase. Tsoz, allez nous chercher le plat de viande.
Tsoz se précipita, disparut, et revint presque immédiatement apportant un grand plat de bœuf aux oignons. Madame Bombeck donna à chacun une part suffisante.
Portez à croque-mitaine, mon ami Tsoz, dit-elle, et revenez vite manger votre part.
Tsoz revint plus vite encore et mangea avec empressement la grosse part que lui avait servie Madame Bombeck.
« Sapristi, quel appétit ! » s'écria-t-elle. « Vous êtes tous deux de vrais Polonais. C'est égal, je vous utiliserai. Que savez-vous faire, Boginski ?»«
Moi faire écriture comme maître, moi donner leçon musique. »«
Musique ?» dit Madame Bombeck en sautant sur sa chaise. « Vous aimez la musique ? Vous jouez de quelque instrument ?»«
Moi aimer beaucoup musique. Moi jouer piano et flûte. Moi savoir accorder et raccommoder piano, flûte, violon. »
« Mon ami, mon bon ami !» s'écria Madame Bombeck en se jetant au cou de Boginski, surpris et enchanté.
« Vous aimez la musique, c'est admirable, nous ferons de la musique ensemble. »«
Tout le jour s'y plaît à Madame, » répondit Boginski. « Moi jamais fatigué pour musique. »«
Mon cher ami, quel bonheur! Comme je vous remercie de vouloir bien loger chez moi. »«
Mais riez donc, vous autres! Ris donc, simplette! Ris, Nigo! Ris, diable de Tsoz! »
Que sais-tu, toi, mon pauvre Tsoz ?
Moi, c'est relier livre, graver musique.
Graver musique ? Mais c'est une bénédiction. Vous allez me graver des sonates écrites à la main, vieilles, mais superbes, admirables.
Nous les vendrons, nous gagnerons de l'argent. Car je ne suis pas riche, moi, mes chers, mes bons amis, et je ne pourrai pas vous garder longtemps si vous ne gagnez pas quelque argent.
Ma tante, je voudrais bien sortir après dîner, dit Innocent.
« Pour aller où, Nigo ?»«
Pour porter à la pension la lettre de papa. »«
Tu es bien pressé, mon garçon, mais je ne te retiens pas. Va où tu voudras, reste-y si tu veux. Emmène Simplette avec toi, je garde mes Polonais, moi. »«
Mais ma tante, nous ne savons pas le chemin, » dit Innocent. « Nous voudrions un Polonais pour nous mener. »«
Sac à papier, diable de Nigo qui ne connaissent pas Paris.
Tsoz, allez avec eux et revenez vite, je garde mon ami Boginski. »
Pendant ce dialogue, Croque-Mitaine avait apporté de la salade et du fromage. On finissait le repas et Madame Bombeck se leva de table, emmenant avec elle Boginski. Peu d'instants après, on les entendit racler du violon et souffler de la flûte. Les enfants allèrent chercher Prudence et descendirent, accompagnés de Tsoz Rogoborlovski, et enchantés de prendre l'air.